Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouvelles du monde en ce mardi 1er avril 2025. Et vu que l'actualité est déjà suffisamment absurde et pleine de dingueries comme ça, on va pas s'amuser à faire des blagues aujourd'hui. Ne cherchez donc pas le poisson d'avril dans ce que je vais vous raconter, tout sera véridique. On va parler de l'avenir de l'abattoir du Vigan. Qui se cherche justement un avenir, notamment des questions de sous qui posent gros problèmes. On va parler de ce qui se passe toujours en Turquie avec des grosses mobilisations qui ont eu toujours lieu ce week-end. Et on va continuer notre route vers l'Est en allant faire un tour plus loin en Asie avec notamment la révolte en Indonésie qui continue contre le gouvernement là aussi d'extrême droite. Et au Japon, où on pourrait bien, où on vit en tout cas, des gros problèmes au niveau d'alimentation, et on pourrait même peut-être voir des pénuries de riz au Japon, vous vous rendez compte. Tout d'abord, donc, quelques extraits d'un article dans la colonne du journal Objectif Gare qui s'intéresse à l'avenir de l'abattoir du Vigan. C'est un abattoir coopératif qui est au Vigan depuis 2017. Hein. On avait fait un reportage d'ailleurs chez eux au début de l'inauguration, de la reprise par cette coopérative bouchère. Les coopérateurs donc, de cet abattoir ont besoin d'investir dans l'outil, alors que le propriétaire des locaux, qui est la communauté de communes du Pays Viganais, ne peut plus assumer seul justement la charge de l'équipement. Il y a eu un rendez-vous avec la sous-préfète du Vigan, Anne Levasseur, pour une réflexion commune récemment, avec l'appui notamment de la Chambre d'agriculture. C'est donc suite à ces réflexions que l'article a été écrit. Le souhait peut-être, on va le voir, ce serait qu'une société d'économie mixte puisse devenir propriétaire de ses locaux. Ce qui pourrait même être utile à terme à un nouvel abattoir du côté d'Alès, puisque là aussi ça bouge. Alors on va revenir un petit peu en arrière déjà. Déjà l'état donc de cet abattoir, contrairement à de nombreux abattoirs en France, déjà les finances de l'abattoir du Vigan sont à l'équilibre, hein, notamment en raison du modèle coopératif qui le fait vivre depuis 2018. Ces modèles obligent une partie des éleveurs à travailler dans l'abattoir, donc à devenir ce qu'on appelle tâcherons au moins une fois par semaine, un peu comme sur le même modèle que les boutiques paysannes que vous connaissez sûrement. C'est donc une satisfaction déjà au niveau de la qualité du travail, hein, un abattoir qui avait été touché par des scandales de maltraitance animale révélés par L214 et qui avait donc précipité un petit peu la reprise et donc ce joli projet qui a été mené à la suite. Donc c'est satisfaisant pour les travailleurs, mais ne permet pas, notamment au niveau financier, de réaliser des investissements qui sont maintenant nécessaires pour les mises aux normes. On avait pour objectif de racheter l'abattoir, explique d'ailleurs Stéphane Thierry, qui est porte-parole, un des porte-parole de cette coopérative bouchère. Il est éleveur de bovins sur Bèze et Esparon et il fait partie sur la cinquantaine d'éleveurs qui utilisent l'abattoir, à la quinzaine. Il fait partie de cette quinzaine qui travaille aussi là-bas. Alors en face, la communauté de communes du Pays Viganais souhaite abandonner en effet la propriété des murs, puisque c'est elle donc, qui est propriétaire du bâtiment. Un bâtiment qu'elle a dû récupérer dans les années 2000. Et bien justement, dans les finances, ça plombe le budget du Pays Viganais. Si le modèle d'abattage donc, a complètement changé, je vous l'ai dit, la communauté de communes continue malgré tout de rembourser encore des emprunts, et ce jusqu'à 2030, environ 40 000 euros par an, hein, ça coûte. Et l'abattoir, lui, s'il était vendu, aurait donc une valeur de 250 000 euros environ, selon l'estimation, ce qui permettrait donc parfaitement de rembourser le reste de la dette. Donc ça permettrait de remettre les comptes du Pays Viganais à flot. Mais 250 000 euros, c'est un montant beaucoup trop élevé pour la coopérative paysanne qui utilise l'abattoir aujourd'hui. On n'a pas de fonds propres, confirme d'ailleurs l'éleveur Stéphane Thierry. D'autant que si cette coopérative paysanne souhaite acquérir l'équipement, c'est pour pouvoir le développer, donc investir. Donc il faudra là aussi encore de l'argent, notamment en termes de mise aux normes hein, sur la partie réfrigérante, le système froid, avec des normes qui changent très souvent et donc qui sont possiblement des menaces de fermeture. Et puis, explique toujours l'éleveur, ils aimeraient créer un atelier de transformation pour être plus attractif pour les éleveurs qui font de la vente directe. C'est le cas de très nombreux éleveurs qui utilisent cet abattoir. Ils viennent, s'occupent de leurs animaux et de ceux des autres membres de la coopérative, puis font par exemple des barquettes ou de la mise sous vide. S'ils pouvaient faire de la transformation en plus, ça serait donc un véritable plus, puisque souvent ils n'ont pas de laboratoire chez eux par exemple. C'est donc toutes ces problématiques qui font que cette réunion a lieu avec la sous-préfète du Vigan hein, et qui a mis tout le monde autour de la table, notamment Guy Marjolais qui est directeur adjoint de la Chambre d'agriculture et qui a relevé déjà cette question. Pourquoi il n'y a que le pays viganais qui paye, dit-il, alors que les éleveurs proviennent d'autres territoires. Et en effet, sur les plus de 50 éleveurs qui utilisent cet abattoir, je vous le disais, une quinzaine sont sur le pays viganais et les autres viennent par exemple d'autres communautés de communes autour, Causse-Aigoual-Cévennes, Piémont-Cévenol, Ganges-Tumène ou encore même des deux communautés de communes du sud de la Lozère et même certains viennent de Nîmes Métropole. Une idée donc pourrait être de créer une société d'économie mixte qui inclurait comme propriétaires bien les intercommunalités hein, qui rachèteraient tout ça ensemble puisque c'est au niveau de l'intercommunalité que se situe la compétence abattage et non pas au niveau départemental. L'exploitation de l'abattoir pourrait rester privée, en l'occurrence toujours la coopérative paysanne. Il y a un problème dans cette configuration, c'est que ni la région ni le département ne souhaitent mettre de l'argent au capital de la société d'économie mixte. Et donc ils disent oui pour les investissements, mais non pour mettre la main dedans. Une autre piste sérieuse, donc le département, puisque ça fait des années que Magali Sommade, qui est présidente de la Chambre d'agriculture, porte l'idée d'un abattoir départemental. Le Vigan pourrait peut-être servir de terrain d'expérimentation à une plus petite échelle et ensuite le modèle pourrait être généralisé sur des structures plus importantes puisque en effet du côté d'Alès la situation de l'abattoir est aussi incertaine hein, les regards se retournent donc vers cet agglo et en cas donc de construction d'un nouvel abattoir, ce qui devrait arriver normalement de manière obligatoire dans les prochaines décennies, eh bien, la société d'économie mixte pourrait peut-être chapeauter justement ces deux équipements, puisqu'ils sont tous les deux situés dans le Gard. À Alès, en attendant, la recherche de foncier pour construire cet abattoir neuf se poursuit. Et pour ce qui est du Vigan, eh bien, le président Régis Bail, le président de la Comcom Pays Viganais, insiste sur la nécessité absolue de sauver l'abattoir pour sauver l'élevage. On croit à l'élevage de proximité, dit-il, au circuit court. Mais cette activité est déjà fragile. Sans subvention européenne, l'élevage ovin ne serait déjà pas viable. Et les conditions de travail, qui incluent désormais la présence du loup, eh bien, ont refroidi pas mal d'éleveurs déjà. Donc voilà, encore beaucoup de pistes de réflexion, mais un modèle se dessine peut-être à minima, où chaque communauté de communes pourrait participer au financement, au prorata évidemment du nombre d'éleveurs qui utilisent les équipements. Et il reste malgré tout un gros doute sur la conjoncture économique. Et politique aussi, puisque, rappelle Régis Bail, on n'est qu'à un an de la fin des mandats municipaux et que les vraies décisions, malheureusement, ne se prendront sans doute qu'après tout ça. Voilà. On va à Montpellier avec ce petit article dans les colonnes du journal Le Point, le média Le Point. On apprend que les militants du syndicat solidaire étudiant de l'université Paul Valéry, qui sont régulièrement pris pour cible par l'extrême droite locale, eh bien, ont découvert la porte de leur local syndical fracturée. C'était après la manifestation contre le racisme du 22 mars dernier. Si l'action n'a pas été revendiquée, les militants affirment avoir peu de doutes quant à son origine. C'est donc après la manifestation contre le racisme qui a eu lieu le samedi 22 mars à Montpellier que les militants l'ont découvert. La porte de local a été fracturée, l'intérieur du lieu saccagé. Et du matériel a disparu, notamment les drapeaux et les autocollants. Un petit raid donc punitif, a priori, à chercher du côté de l'extrême droite. Les gens qui ont fait ça ont aussi consulté les fiches des cas étudiants, d'ailleurs, qu'ils accompagnent dans diverses démarches. Et là, ce sont des données confidentielles et personnelles qui ont été, certainement peut-être copiées. Si l'action n'a pas été revendiquée, donc les adhérents au syndicat y voient l'œuvre d'un ou plusieurs groupuscules d'extrême droite locaux avec lesquels ils ont souvent maille à partir. Dans un communiqué publié après les faits, il raconte être donc régulièrement pris pour cible, notamment de dégradation par la cocarde étudiante, c'est un syndicat étudiant d'extrême droite, ou par le bloc montpelliérain, un groupe nationaliste lui aussi connu pour ses violences. Ce même week-end d'ailleurs, de la manif contre le racisme, avait lieu une conférence du bloc montpelliérain où des militants néo-nazis d'autres villes étaient rassemblés. Dans ce contexte, ils croyaient peu donc à la coïncidence, à savoir qu'une semaine plus tôt, le vendredi 14 mars, un groupe d'étudiants, dont des militants du syndicat Solidaire, ont été agressés par un militant d'extrême droite cagoulé. Ça s'est passé dans le resto universitaire de Boutonnet. Ce militant à la cocarde étudiante et au bloc montpelliérain avait déjà tenté, la veille de l'agression, d'intimider des étudiants mobilisés dans la manifestation contre les coupes budgétaires. Les membres du syndicat Solidaire étudiant ont d'ailleurs annoncé que des plaintes allaient être déposées. Plusieurs centaines de milliers de manifestants se sont encore rassemblés ce samedi à Istanbul et dans d'autres villes de Turquie. Quelques figures du parti islamo-conservateur au pouvoir, l'AKP, dénoncent le virage répressif alors que plus de 2000 personnes ont été arrêtées depuis le début de ce mouvement. On est en effet à 12 jours après l'arrestation du maire de la ville d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, le principal opposant au président actuel Recep Erdogan, et bête noire donc de celui-ci. Erdogan qui est à la tête du parti de la présidence de la Turquie depuis 2003. La mobilisation n'a pas faibli 12 jours après, donc bien au contraire. Depuis le 19 mars a été déclenchée une vague de protestations inédites en plus d'une décennie à travers la Turquie qui mobilise des dizaines de milliers de manifestants chaque soir dans les rues jusqu'à ce lundi soir. Et depuis, eh bien, le parti de l'opposition, donc le CHP, a cessé de convoquer la foule devant la municipalité. Et à la place, ils ont annoncé la tenue de rassemblements réguliers à venir, donc des rassemblements dans des lieux dédiés. C'est par les voix de Özgür Özel, le porte-voix de l'opposition, que ces annonces sont faites, puisque, je le rappelle, le président du CHP et le maire d'Istanbul est donc en prison depuis. Et ainsi, ce samedi 29 mars, ils étaient plusieurs centaines de milliers à Istanbul à avoir transformé l'immense parc de Maltepe, on est au bord de la mer sur la rive asiatique de cette mégalopole. Ils ont donc transformé ce parc en fleuve rouge et blanc, aux couleurs donc du drapeau turc qui fait son grand retour, ainsi que la figure paternaliste et républicaine de Atatürk. Le rassemblement a été autorisé au dernier moment par le gouverneur d'Istanbul, donc ce n'était pas une manif, mais plutôt en forme de meeting politique, un grand podium en plein air sur lequel Özgür Özel, donc le chef de file du Parti Républicain du Peuple, a pu haranguer la foule pendant une heure et demie pour poursuivre ce qu'il a appelé la marche vers le pouvoir et à écrire enfin l'histoire. D'un ton ferme, il a annoncé donc sous les applaudissements que la mobilisation du jour avait réuni près de 2,2 millions de personnes en tout dans tout le pays. Les manifestants se sont tous munis du drapeau turc et de portraits donc de Atatürk, Mustafa Kemal, le père de la nation. On peut scander des slogans tels que Taksim partout, résistance partout, donc des slogans en référence et en hommage à la place de Taksim qui était l'épicentre du vaste mouvement de contestation de 2013, le mouvement qu'on a appelé celui de Gezi Park. Une démonstration de force donc en ce samedi pour l'opposition qui, au-delà même de la querelle des chiffres, s'est déroulée dans un calme qui n'est jamais atteint depuis le début des manifestations. En effet, vu que c'était autorisé et que ce n'était pas face à des barrages de police, il y a eu peu de violence. En ce début du long week-end de l'Eid el-Fitr, qui célèbre la fin du Ramadan et qui a été célébré ce dimanche, le rassemblement de ce samedi avait un peu valeur de test pour l'opposition, alors que de nombreux habitants d'Istanbul avaient quitté la ville justement pour être en famille, d'autant plus que le président avait annoncé cette semaine 9 jours de vacances, l'octroi de 9 jours aux fonctionnaires et aux institutions publiques. Petite vacance surprise comme par hasard. Si les jeunes et les étudiants surtout ont tenté de poursuivre cette mobilisation, la répression continue malgré tout avec des arrestations de personnes chez elles à l'aube, des manifestants, des journalistes et des avocats. Tout cela pourrait peut-être rebuter les plus déterminés de ces manifestants. Rien qu'à Istanbul, 511 étudiants avaient déjà été interpellés vendredi dernier, dont la moitié incarcérée, selon l'avocat Ferhat Güzel, pour qui le nombre est certainement, probablement d'ailleurs, beaucoup plus élevé. Selon d'autres chiffres officiels, plus de 2000 personnes ont été arrêtées et 260 incarcérées sur toutes les soirées de manifestations dans les villes. À noter d'ailleurs, en ce qui concerne les journalistes, que vendredi dernier, au soir, le journaliste suédois Joachim Medine, a été interpellé à sa descente d'avion, puis placé en détention dans une prison d'Istanbul. Selon les médias turcs qui répètent la parole du gouvernement, le reporter est accusé d'avoir insulté le président turc et d'être membre d'une organisation terroriste armée. On fait la référence bien évidemment au PKK, toujours le parti des travailleurs du Kurdistan. Au moins 12 journalistes turcs ont été arrêtés dans la semaine dernière, la plupart depuis ont été libérés, mais ils restent accusés d'avoir participé à des manifestations interdites. Or, ils couvraient celle-ci pour leurs médias. À noter d'ailleurs qu'un de ces photographes travaille pour l'AFP, il s'appelle Yassine Akgül, et il dit craindre une volonté d'empêcher les journalistes de faire leur travail. Vendredi dernier, l'avocat du maire d'Istanbul en prison, Mehmet Pelivan, a été arrêté lui aussi pour des motifs inventés de toutes pièces, selon le maire İmamoğlu, puis remis en liberté dans la soirée. Un autre article a été publié dans les colonnes du média en ligne Bastamag et il s'intéresse plus particulièrement à la participation étudiante dans ce mouvement. Ce sont les étudiants qui font tout dans ce mouvement et qui organisent les manifestations, explique un des professeurs d'université à Istanbul, lui aussi membre de la mobilisation. Il s'était d'ailleurs, ce professeur s'était mobilisé en 2013 déjà lors du vaste mouvement social de Gezi. Il explique là que donc au début, quand İmamoğlu a été arrêté, donc il y a 12 jours, l'organisation du CHP appelait les gens à venir manifester devant le bâtiment de la mairie d'Istanbul, la municipalité. Pendant 6 ou 7 nuits, il y a eu des milliers de manifestants là-bas, mais tout était organisé par le parti, donc le CHP. Les étudiants étaient présents et restaient le soir quand les plus âgés ou les gens du parti rentraient chez eux. Et alors, les étudiants se confrontaient à la police. Maintenant, les étudiants s'organisent eux-mêmes. Ce sont eux et elles qui mènent le mouvement. Nous, les enseignants, avons suspendu les enseignements et donnons des cours ouverts. Parfois, les étudiants nous invitent à leur forum et nous y allons pour les soutenir. Ce prof, donc, pointe la détérioration des conditions de vie des étudiants depuis plusieurs années. Il explique qu'il est très difficile d'avoir une place en dortoir universitaire, qu'il n'y en a pas assez et que surtout, tout est très cher. En effet, la Turquie est touchée par une inflation à 40% sur un an depuis 2-3 ans. Et explique aussi cet étudiant, nous ne nous sentons pas en sécurité en général. Et elle est une femme, elle explique surtout qu'en tant que femme, les droits ne sont pas protégés. On ne peut pas faire confiance au gouvernement qui a décidé de retirer la Turquie de la convention de l'ONU sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Et cette jeune étudiante explique que s'il leur arrive quelque chose, elles ne peuvent pas faire confiance non plus à la police. Au niveau du professeur d'université donc, qui témoigne, il observe que donc, les étudiants qui sont mobilisés sont très jeunes, ce qui n'était pas forcément... Ils n'étaient pas d'ailleurs politisés avant, et ils sont aujourd'hui dans la rue. Je pense que beaucoup d'étudiants ne protestent pas parce qu'ils aiment spécialement le maire İmamoğlu, mais ils protestent contre Erdogan, même si le maire d'Istanbul est très populaire en ce moment. Et puis la première attaque du gouvernement contre le maire d'Istanbul a quand même été de lui retirer son diplôme universitaire. Donc pour les étudiants, c'était très important. Leur réaction était de se dire « On étudie, mais si notre diplôme peut être annulé par le gouvernement de manière arbitraire, alors à quoi ça sert ?» Pour ce professeur, enfin, le mouvement actuel a pour effet de faire bouger le parti de l'opposition, le CHP, qui a toujours été ce qu'on appelle un parti de salon. Il n'aime pas aller en manifestation, mais aujourd'hui, ce parti apprend des étudiants. Et à chaque manifestation, d'ailleurs, les leaders du CHP qui ont le micro demandent aux étudiants « qu'est-ce que vous voulez ?» et ils leur tendent ensuite le micro. Et en attendant, donc, les personnes restent toujours arrêtées. Elles sont parfois accusées de terrorisme en lien avec le mouvement kurde. Alors même que, toujours en ce moment, est en cours un processus de paix, lancé avec le PKK d'ailleurs. Certains de ces étudiants ont été arrêtés et sont en prison aujourd'hui. Nous avons peur pour eux. Termine donc cet enseignant qui témoignait, je vous le disais, dans les colonnes du média Bastamag. Excusez-moi. Et on prend un petit peu des nouvelles de ce qui se passe en Indonésie, même si peu d'articles ont été rédigés là au courant du mois de mars. C'est donc sur le média en ligne Contre-Attaque que ce petit résumé nous est proposé. Il y a rappelé déjà que, déjà au mois de février, face à l'austérité, un mouvement de colère de la jeunesse avait eu lieu, avec là aussi des centaines d'étudiants dans la rue et des militants vêtus de noir qui ont investi pendant 5 jours, c'était du 18 au 22 février, les rues des grandes villes universitaires de l'Indonésie. Tous ces jeunes se sont rassemblés sous la bannière d'un mouvement qu'ils ont baptisé Indonesia Gelap, qui veut dire « sombre Indonésie », et les manifestants ont donc pu exprimer leur colère contre le gouvernement qui est en place depuis à peine 100 jours. Ils ont dénoncé son incompétence et l'incohérence de ses politiques ce depuis l'arrivée au pouvoir du président Prabowo Subianto, qu'on désigne généralement uniquement par son prénom, donc Prabowo, que je vais essayer de prononcer, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ou Prabowo. Le premier motif de révolte de ces étudiants, c'était des coupes budgétaires. 19 milliards de dollars en moins, ça fait environ 18 milliards d'euros, pour l'ensemble des ministères et des nombreux services publics dont dépendent notamment les bourses étudiantes. Au nom, là encore, de l'efficacité budgétaire et de la lutte contre la gabegie bureaucratique, le gouvernement a désigné à cette fin des conseillers spéciaux, parmi lesquels un influenceur et animateur télévisé. Tout ça nous rappelle fortement ce qui se passe aux États-Unis. Eh bien, depuis ce 20 mars, la colère gronde à nouveau en Indonésie, dans cet immense archipel asiatique qui compte plus de 270 millions d'habitants. Des manifestations d'une ampleur inédite ont lieu dans toutes les grandes villes et notamment dans sa capitale, Jakarta. La cause de ce nouveau mouvement, un refus du retour de militaires au poste clé de la vie politique. En effet, le nouveau président, donc Prabowo, a fait passer une loi à huis clos qui va permettre aux officiers en activité d'occuper des postes dans des institutions comme la Cour suprême ou bien les ministères. Dans ce pays qui a quand même connu une dictature anticommuniste jusqu'en 1998, où l'armée a massacré des dizaines de milliers d'habitants au Timor et en Papouasie, la présence de militaires au pouvoir inquiète donc fortement et rappelle des souvenirs encore très vifs. Dans les années 60 aussi, le régime avait organisé un immense massacre de communistes, à l'époque avec, on va dire, en tout cas, la bénédiction de l'Occident, 500 000 à 3 millions de victimes, un crime contre l'humanité impuni et peu connu, ce qui a anéanti à l'époque la gauche indonésienne. Le président actuel, donc Prabowo Subianto, est le gendre du fameux dictateur sanguinaire Suharto de l'époque. Il est aussi officier des forces spéciales, il a été accusé en cela de nombreuses exactions. Il a succédé donc l'année dernière au président centriste Joko Widodo, qui était une sorte de Macron du Pacifique, si on suit ce journaliste. Il gouvernait avec l'extrême droite et a soutenu Subianto pour lui léguer le pouvoir assez facilement. Ces derniers jours, donc, dans la rue, les cortèges réunissent des étudiants, mais aussi des minorités, des ouvriers, des journalistes, des artistes. Tous prennent la rue et affrontent la police de manière assez radicale. Les vidéos sont édifiantes et la répression en face est assez brutale. Des dizaines de blessés, des interpellations arbitraires, jusque dans les hôpitaux. L'Indonésie est de toute façon secouée par des vagues de révolte de manière très régulière. En 2024, le gouvernement avait voulu imposer une réforme électorale, cela avait mis le feu aux poudres. En 2022, des affrontements avaient lieu devant le Parlement contre l'augmentation du coût de la vie et l'ancien président. Et bien malgré le durcissement politique, la colère donc continue de couver et de gronder dans cette grande puissance asiatique. Et on continue notre voyage dans le Pacifique, on va jusqu'au Japon, et cette fois-ci c'est Mediapart qui nous livre cet article qui s'inquiète de l'autosuffisance alimentaire du pays et de la situation de ses paysans. À savoir que depuis ce dimanche 30 mars, des milliers d'agriculteurs manifestent dans tout l'archipel, ils sont entrés dans Tokyo. Ces agriculteurs japonais sont désespérés et dénoncent des réformes qui les plongent dans la précarité et qui réduisent l'autosuffisance alimentaire du pays. Les pénuries en cours ont même doublé le prix du riz et ce n'est pas une mince affaire au Japon. Affirmer que l'agriculture est en train de mourir n'est pas exagéré. À l'avenir, ce ne sont plus seulement les agriculteurs qui seront touchés, mais tous les Japonais. C'est ce que tonne Yoshihide Kano, âgé de 75 ans, un riziculteur de la préfecture de Yamagata et qui est le président du comité qui a donc organisé cette marche dimanche 30 mars à Tokyo sous le rassemblement qui s'intitule « Révolte paysanne de l'ère Reiwa ». Nous devons protéger l'agriculture et augmenter notre autosuffisance alimentaire, a répété la foule de plus de 4500 agriculteurs, agricultrices, producteurs de lait, citoyens solidaires, tous originaires de 14 préfectures, qui ont répondu donc présents à l'appel de cette mobilisation. La pénurie et l'envolée des prix du riz, la précarité des paysans, paysannes, des réformes qui fragilisent les régions déjà éprouvées par le réchauffement climatique et la dénatalité, les campagnes japonaises, bref, sont à bout de souffle. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de révolte paysanne d'une telle ampleur, explique ce porte-parole, depuis l'ère Edo, qui a duré de 1603 à 1868. Jusqu'au début du 19e siècle, les émeutes dites du riz ont soulevé les campagnes, qui protestaient déjà contre l'augmentation du prix de la céréale. Avec cette révolte, donc le monde agricole veut inciter le gouvernement japonais et l'opinion publique à prendre conscience de ces difficultés qui ne font qu'empirer. À savoir que dans le monde agricole au Japon, on compte 46% de femmes dans l'agriculture. Lors d'une réunion qui a réuni tous ces paysans et paysannes au Parlement en août dernier, Yoichi Koshigawa, qui est agriculteur dans la préfecture du Chiba et qui est âgé de 77 ans, déclarait ceci. Les conditions météorologiques anormales, le coût élevé des engrais et des aliments pour animaux en raison de la faiblesse du yen, ce qui est leur monnaie, les dégâts causés par les punaises, qui sont particulièrement dévastatrices quand on cultive du riz, et le vieillissement de la population agricole, tout ça pèse sur le métier. Quelques statistiques nationales sont assez édifiantes. Le revenu moyen d'un producteur de riz japonais n'a pas dépassé les 10 yens de l'heure. Ça fait environ 62 euros par an en 2021, puis en 2022. La situation réelle varie en fonction de la taille de l'exploitation, évidemment, mais elle est symbolique quand même de l'état de l'agriculture japonaise, qui est donc incapable de générer le moindre profit. Selon le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le nombre de ces agriculteurs et agricultrices pour qui ce métier est le principal moyen de subsistance a chuté. Il est passé à seulement 1 million en 2023, ce qui est la moitié du chiffre de l'année 2020. Et à noter que dans les années 60, presque 12 millions de personnes étaient agriculteurs ou agricultrices métier principal. La politique agricole actuelle au Japon prévoit des subventions qui sont proportionnelles à la taille des parcelles pour ceux qui cultivent des produits désignés par les autorités, par exemple le riz pour l'exportation ou pour la consommation animale, le blé, le soja, le sarrasin ou la canne à sucre. Et donc on a des subventions que si on cultive ces produits. C'est donc une politique qui va pousser les exploitants à se concentrer sur des cultures qui sont plus fortement subventionnées. Et notamment, le riz n'est pas tout le temps comestible pour l'humain et ça a pour conséquence que 40% des rizières sont aujourd'hui indisponibles à la consommation domestique du riz. À savoir qu'il y a 1,2 million de tonnes de riz qui sont donc ainsi non consommées par les Japonais, mais qui vont, comme je vous le disais, soit à l'exportation, soit pour nourrir d'autres animaux. Le gouvernement justifie ses choix de réduire les cultures de riz par la chute de la consommation de la population, mais suite à cette décision, 2024, une crise sans précédent a lieu, à savoir qu'en mars, le prix moyen d'un sac de riz de 5 kg atteignait 25 euros, selon une enquête qui a été, c'est le double du prix observé la même année, en mars de l'an dernier. Donc le prix du riz a doublé à cause de cette nouvelle politique agricole. Et à côté de ça, vous l'avez entendu, le changement climatique est très fort sur l'île, avec des séismes, des typhons, des feux de forêt, des tsunamis. Les catastrophes se succèdent en raison des conditions climatiques. La situation mondiale s'oriente vers la guerre. Et si les transports s'arrêtent, que nous restera-t-il à manger? Si l'autosuffisance alimentaire s'effondre complètement, pose la question donc ce porte-parole des agriculteurs présents à Tokyo donc ce dimanche. En 2023, le Japon, dont le taux d'autosuffisance alimentaire est de seulement 38%, a importé 700 millions de kilos de riz qui provenaient des États-Unis, de la Thaïlande ou de la Chine. Cette année, la situation est telle que l'archipel, après avoir longtemps résisté, a fini par prendre du riz dans une partie de ce qu'il appelle le Bichikumai. C'est la réserve de riz qui est stockée en cas d'extrême urgence. Catastrophes naturelles, famine, etc. Et ils ont donc tapé dedans cette année pour la première fois pour pouvoir que le marché domestique soit suffisamment pourvu en riz. Et dernier problème qui se pose, celui de la démographie, avec la reprise des exploitations par les jeunes générations qui n'a pas lieu. Aujourd'hui, l'âge moyen des agriculteurs et agricultrices du Japon est de presque 69 ans. Seulement 10% de ces paysans ont moins de 49 ans, donc c'est très âgé comme population. Et l'article termine avec cette citation de l'agriculteur et écrivain Soichi Yamashita, qui est décédé en 2022. Il écrivait qu'au Japon, où il est impossible de cultiver à grande échelle en raison du relief montagneux, c'est quand même 70% du territoire japonais qui est en montagne, les petits agriculteurs qui peuvent être autosuffisants sont forts, même si leur vie est difficile.
Maintenant, il faut nous écouter. Est-ce que là, on en a gros?
On en a gros.
Chers amis, on se quitte là-dessus. Rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. Et puis d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Par exemple, il y en a plein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.